Cette semaine, on va pas continuer comme on le fait d'habitude dans le texte de la Bible, verset par verset, chapitre par chapitre, et livre par livre. Mais on aimera vous partager un peu ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs pour cette nouvelle année, qui est déjà bien entamée. C'est pour ça que même si c'est un dimanche de vacances, et que beaucoup d'entre nous ne sont pas là physiquement, on espère, on vous dit bonjour sur l'enregistrement. On espère que l'enregistrement va bien se passer, sinon il va falloir refaire cette présentation. Les messages sont enregistrés et disponibles. Si vous cherchez Calvary Chapel Nice, vous pouvez les trouver facilement. On est dans l'étude de 2 Pierre. Et on avait juste vu un petit rappel que Pierre nous rappelle que Dieu a tout fait pour nous. Dieu a tout fait pour nous, et quelque part, notre acceptation par lui, notre éternité avec lui ne dépend pas de ce que nous pouvons faire pour lui, simplement d'accepter ce qu'il a déjà fait pour nous. Mais on a vu aussi que on peut se tomber dans le concept d'une grâce à bon marché, selon laquelle nous n'aurions vraiment plus rien à faire. Dieu a tout fait pour nous, mais il nous demande aussi de tout faire pour lui. Ça, c'était dans le chapitre 1 de 2 Pierre, le verset 5, « Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » On a aussi rappelé qu'en fait, si vous deviez répondre à la question « Quel est le but de ma vie ?» Certains auraient peut-être un peu de mal à essayer de définir cela. Nous avons l'avantage de pouvoir nous tourner dans la parole de Dieu et de voir que Jésus a répondu à cette question lorsqu'on lui demandait quel était le plus grand commandement. Il répondait dans Matthieu 22, 38, « Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. » C'est d'aimer Dieu. Ailleurs, dans Jean 17, 3, dans sa prière à son Père, il a dit que la vie éternelle, c'était de connaître Dieu et celui qu'il avait envoyé. Et quelque part, oui, le connaître Dieu, c'est l'aimer. C'est l'adorer, c'est le servir. Et notre désir en tant que responsable de cette Église, c'est de vous voir grandir dans la foi, de vous voir devenir des disciples, de grandir dans la connaissance, dans votre amour, dans votre service. Alors, plutôt que de parler en termes vagues, j'aimerais quand même me rattacher à 2 passages. Premier passage, c'est dans Hébreux 10, versets 19 à 25. Et vous pouvez aussi noter le deuxième passage, ce sera 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Premier passage, et se trouve dans une lettre, on n'est pas tout à fait sûr de l'auteur de la lettre, une lettre écrite à des Juifs qui avaient la tentation de quitter la foi en Christ pour revenir aux pratiques de leurs ancêtres, en offrant notamment des sacrifices. Et L'auteur de la lettre leur dit « Surtout ne faites pas une telle chose. Réalisez que d'abord que Jésus-Christ est supérieur à toute autre chose. » Il compare aux anges, il le compare à tout ce qu'on peut imaginer. Il est plus grand que Moïse, il est plus grand que les prêtres du système des Lévitiques, il est semblable à Melchisédek, etc. Il est notre souverain grand prêtre. Mais surtout, il veut les dissuader de s'éloigner de Christ et de la foi nouvellement révélé par Jésus-Christ. Et il leur dit, verset 19, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. » Et puis il continue, verset 23, « Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Et les versets que j'aimerais souligner, « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Arrêtons-nous là. Nous sommes appelés à vivre dans une communauté forte de l'amour de Christ. La foi chrétienne, elle ne peut pas se vivre indépendamment de nos frères et de nos sœurs. On peut se trouver des fois très spirituel lorsqu'on lit la parole ou lorsqu'on écoute des sermons seul chez soi, mais le vrai test de la foi chrétienne, c'est d'arriver à vivre avec nos frères et sœurs dans l'amour. C'est à ceci que le monde saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et donc cet amour, il se vit au sein d'une communauté. Et nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Ça me rappelle le proverbe 27-17 qui dit que le fer aiguise le fer. Nous sommes privilégiés d'être ensemble, de nous connaître, de former une famille, d'accueillir de nouveaux membres, bien sûr, toujours être ouverts à ceux qui ne sont pas encore parmi nous, pour nous encourager à vivre notre foi de façon plus sérieuse, de façon plus consacrée, dans l'amour les uns des autres, dans l'amour du Seigneur, animé par l'Esprit Saint. Un aspect très important de la vie chrétienne, c'est l'aspect de redevabilité. C'est un mot un peu long, un peu obtus, dont le sens n'est pas toujours compris. Ça veut dire qu'on a des comptes à se rendre les uns les autres dans notre vie chrétienne. Si je vois mon frère qui commence à partir sur une mauvaise voie, qui ne vit plus dans la consécration à Dieu, qui succombe au péché, aux tentations, qui vit dans le péché, il m'incombe à moi, qui le sait, qui le voit, qui l'aime, d'aller le voir et de lui dire ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais risque de t'éloigner très loin du Seigneur, avec amour, sans se croire supérieur à l'autre, mais je crois que c'est quelque chose qui doit, qui doit être davantage présent parmi nous. On vit dans un monde où il est facile de décrocher. Et il y a des personnes qui peut-être ne sont plus là depuis un petit moment, et puis on pense, bon, la première semaine c'était les vacances, après il y avait autre chose, il était tombé malade, puis on oublie un peu, les gens ont cette liberté, et on n'encourage pas les gens à avoir une vision policière ou rigide du suivi de ses frères et sœurs, mais je crois, et je parle pour moi, qu'au nom d'une liberté de conscience, j'ai tendance à ne pas prendre mon téléphone pour appeler tel ou tel frère qui visiblement n'est pas sûr et peut-être en danger, et lui montrer mon amour, lui montrer que je m'intéresse à son salut, à sa vie spirituelle, à son bien-être spirituel, à celui de sa famille. Et donc c'est cette idée de veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Je suis toujours heureux quand je sais que vous vous fréquentez, que vous vous voyez les uns les autres. Mais une chose qui est importante, c'est que lorsque vous voyez qu'il y a une dimension spirituelle, que ce ne soit pas simplement pour parler du dernier match de foot ou du dernier film de Woody Allen, ces choses ont leur place si vous le souhaitez, mais est-ce qu'il y a vraiment une communion fraternelle lorsque vous vous retrouvez? Est-ce que nous nous incitons à l'amour et à de belles œuvres? Je pose la question. La parole est claire que la présence aux réunions de l'Assemblée, c'est quelque chose de très important. Souvent, les gens sont, lorsqu'ils ne sont pas en forme, surtout moralement, ils préfèrent s'éloigner. Mais nous avons besoin d'être présents les uns pour les autres. Ça veut dire que nous avons aussi le besoin d'être transparents. Il y a souvent le sourire du dimanche matin, tout va bien, la vie est merveilleuse, le Seigneur est bon, alléluia. Alors que des fois, il y a des déchirements, il y a des peines, il y a des douleurs, il y a des inquiétudes, il y a des tentations. J'aimerais que parmi nous, il y ait davantage de confiance, qu'on peut partager ces problèmes, qu'on peut prier les uns pour les autres. En tant que pasteur, une des choses qui me réjouit le plus, c'est lorsque je vois deux personnes ou plus prier ensemble après le culte. Ça veut dire que vous êtes connectés à un niveau sincère et que vous présentez vos situations, vos problèmes, vos inquiétudes, vous les présentez ensemble au Seigneur. Et ça, c'est un signe. Pour moi, c'est un signe de bonne santé spirituelle d'une assemblée. Est-ce qu'il y a de la prière spontanée? Puis bien sûr, il y a d'autres activités, les réunions de prière que l'on vous propose, des réunions formelles ou plus exactement programmées dans la semaine. Je crois j'aspire, et je crois que vous le faites aussi, à plus de communauté. Alors, Tonio nous parlera après de choses plus pratiques. Comment ces choses peuvent se mettre en place de façon pratique? Ça peut être d'avoir plus souvent des repas d'église, où on peut apprendre à mieux se connaître, surtout pour les nouvelles personnes. Ça peut être de s'inviter comme ça. Ça peut être d'aller vers celui qu'on ne connaît pas après le culte, de se présenter, de lui demander s'il y a des sujets de prière. Et c'est une façon très rapide de connaître et de faire des amis dans l'Église. Lorsqu'on va vers l'autre et qu'on lui dit « Voilà, je m'appelle un tel, je fais ça, et toi, d'où viens-tu? Est-ce que tu as des... Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce qu'il y a des sujets brûlants ?» Et vous serez surpris de voir qu'en fait, même des gens qu'on rencontre comme ça sont prêts à des fois à déverser leurs soucis, leurs problèmes, Et lorsque vous priez avec eux, il y a une communion qui s'établit, parce que nous sommes de la famille de Christ, s'ils connaissent déjà le Seigneur. S'ils ne le connaissent pas, c'est bien aussi de leur montrer de l'amour, de l'attention, d'être des témoins de l'amour de Jésus-Christ. Ça, c'est un premier texte. Donc, et lorsque vous ne venez pas parce que vous êtes fatigué ou que vous êtes fatigué, je viens de le dire, ou qu'il pleut, ou qu'il neige, ou qu'il y a la grève des bus, il y a toujours des excuses qui sont valables, bien sûr, mais sachez que vous manquez à la construction de l'édifice. Je ne peux pas vous encourager assez, c'est plus chaleureux, c'est plus vivant lorsque toutes les chaises sont remplies. Elles le sont rarement, malheureusement, mais que lorsqu'on prêche et qu'il y a la moitié des sièges qui sont vides, pas parce qu'on veut dire qu'on est 50 ou 70 ou 80 ou 150 le matin au culte, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on fasse tous nos efforts pour être là ensemble. Et il n'y a pas de petite partie du corps. On ne va pas aller étudier l'analogie du corps de Christ et celle du corps humain, mais sachez que si vous n'êtes pas là, vous allez manquer. Et vous allez être vous-même, vous allez manquer de la communion fraternelle. Nous sommes un corps et la santé du corps, ça passe par la communication des cellules entre elles, ça passe par une unité qui n'est pas là si on abandonne les réunions. Un autre passage qui me touche aussi, c'est 2 Corinthiens 4. Si vous pouvez. C'est un passage que un des orateurs de la conférence à laquelle nous avons assisté avec Tonio en Autriche la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, a souligné aussi dans un sermon. Lisons-le. À partir du verset 16 de Corinthiens 4, 16, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et ce passage que vous connaissez sans doute, ce pasteur l'utilisait dans le sens où il disait que nous devons centrer notre vision sur le spirituel. Nous sommes incarnés, nous vivons dans un monde matériel auquel nous accordons beaucoup d'importance, et c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est là où ça peut devenir dangereux, c'est que lorsqu'on le fait au détriment d'une vision spirituelle du monde qui nous entoure. J'aime bien dire que même ce que nous croyons être matériel, en fait, c'est quand on y regarde de plus près, avec les instruments de la science moderne, c'est essentiellement du vide qui tourne très vite sur lui-même. Les électrons, les atomes sont composés de petites particules d'électrons qui tournent à des vitesses faramineuses sur eux-mêmes et qui créent ce que nous considérons comme le réel. Mais nous sommes invités par ce passage à ne regarder pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. On peut dire, mais c'est bien beau, tu nous dis de regarder l'invisible, mais par définition, c'est impossible. C'est un peu stupide, ton passage. Non, vous savez bien que on peut regarder l'invisible par les yeux du cœur, par notre esprit. C'est dans notre esprit qui crie « Abba Père » qui nous dit que nous sommes les enfants du Père. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes dès de nouveau, l'Esprit est en nous qui nous permet de voir les choses spirituelles. Et nous pouvons être tentés de perdre courage. Nous pouvons, devant les épreuves de nos vies, devant les difficultés de tous ordres, que ce soit économique, sécuritaire, financier, physique, santé, tous ces problèmes peuvent nous accabler et on peut perdre courage. Mais le remède, c'est que notre être extérieur même se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre être extérieur, c'est notre corps. Pour les jeunes, vous pensez que vous allez être de plus en plus fort et vous allez courir de plus en plus vite. C'est vrai jusqu'à un certain point, puis rapidement ça va atteindre un plateau et après ça va commencer à se dégrader. Et qu'on soit en super forme ou en moins bonne forme, il suffit d'ajouter quelques dizaines d'années et on va tous arriver à ce moment où on va quitter notre corps pour être en présence, je l'espère, de Dieu, de Jésus-Christ. Et on constate, et c'est souvent déprimant parce que nous vivons dans un monde qui met tout l'accent sur la jeunesse, la santé, la force, la vigueur, que notre être extérieur, il se détruit. On a vu Pierre parler des tentes que sont nos corps. On disait le camping, c'est bien les premiers soirs, les premiers jours, mais au bout d'une semaine, on a hâte de retrouver un lit parce que la tente se détend, s'il a plu un peu, l'humidité ne s'en va pas, on est mal. Mais à côté de ça, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Comment est-ce qu'il peut se renouveler? Justement par la connaissance de Dieu, par l'étude, la connaissance, la lecture de sa parole, par la prière seule ou en groupe, par le service, par l'amour pour ceux qui ne le connaissent pas, par l'évangélisation, toutes ces choses renouvellent notre être intérieur. Et donc l'idée, c'est, pour rejoindre le premier texte que nous avons lu, de la communauté, oui, mais il faut que cette communauté, elle soit spirituelle aussi. On ne peut pas se contenter simplement de se retrouver, sinon on devient un club, on devient une association, on peut jouer au loto, on peut organiser des tas de choses, mais s'il n'y a pas cette dimension spirituelle d'amour les uns pour les autres, de désir de connaître les choses qu'on ne voit pas, alors à ce moment-là, on ne va pas faire la volonté de Dieu. Il parle des légères difficultés du moment présent qui produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. En fait, là, lorsque c'est Paul qui parle des légères difficultés du moment présent, il il fait ce qu'on appelle un euphémisme, c'est-à-dire que ce qu'il décrit comme des choses légères, c'est en fait des choses énormes. Il suffit d'aller voir dans 2 Corinthiens 11, ou de même de lire ce qu'il a... Juste avant le verset 8, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. » Mais pour lui, il considère toutes les souffrances qui sont décrites, notamment dans 2 Corinthiens 11, où il raconte comment il a été emprisonné, comment il a été naufragé, comment il a été battu, comment on l'a médit de lui, comment on l'a calomnié, comment il a eu des gens qui étaient là, qui cherchaient à le tuer, comment il a été pourchassé. Tout ça, il le considère comme des afflictions légères, comme des légères difficultés du moment présent. Quand on pèse quelque chose, c'est toujours par rapport à autre chose. On se pèse le matin par rapport au kilogramme. On espère que, généralement, sauf si on est malade et qu'on a besoin de gagner un peu de poids, on espère toujours qu'on va peser un peu moins que la veille. Et le poids, c'est relatif à quelque chose. Et là, il peut parler de choses légères par rapport à une autre chose qui est le poids éternel de gloire que ces souffrances produisent en nous. C'est comme d'un côté de la balance, il y a nos problèmes, puis de l'autre côté, il y a la gloire que l'on a quand on connaît le Seigneur, lorsqu'on partage sa gloire, un poids éternel de gloire. Le mot « gloire », en hébreu, c'est le même mot qui veut dire quelque chose qui pèse, qui est solide. Aujourd'hui, on dit « c'est du grave », on pourrait dire « c'est du lourd ». Quand on fait de la sono, est-ce qu'il y avait du lourd ? C'est la même chose, quelque chose de solide, de puissant, c'est lourd par rapport à nos problèmes d'ici-bas. Et c'est là qu'on peut, si on a cette vision des choses, au lieu de regarder à nos difficultés et à perdre espoir, à perdre courage, si on regarde à ce qui est invisible avec les yeux de la foi, si on regarde à Jésus-Christ, si on réalise que ce qui compte, c'est avant tout, c'est notre relation intime avec lui et notre amour les uns pour les autres, à ce moment-là, on voit ces choses invisibles. Et c'est ces choses invisibles qui sont éternelles. En Christ, nous avons vraiment tout ce que nous pouvons souhaiter. Ce qui est merveilleux, c'est que les choses les plus importantes sont invisibles, comme l'amour, comme la foi, comme l'espérance, sont des choses spirituelles, encore une fois. Et ce qui est remarquable, c'est que ces choses qui sont merveilleuses et qui sont les plus importantes dans notre vie, elles sont complètement gratuites. Pas besoin d'avoir le dernier modèle de voiture pour être heureux, pas besoin d'avoir le dernier modèle d'iPhone pour être heureux. C'est difficile à admettre, mais... Ces choses comme la foi, l'amour, l'espérance, la puissance spirituelle, la grâce, toutes ces choses-là, elles sont gratuites. Si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, Jésus nous dit que Dieu prendra soin de tous nos autres besoins parce qu'il sait ce dont nous avons besoin. Et si nous voulons avoir un impact dans le monde qui nous entoure, nous devons être une église spirituelle. On peut être influencé par le monde et penser que si on avait des millions d'euros, qu'on puisse avoir un bâtiment complètement refait, moderne, si on avait des moyens financiers de produire des vidéos, de les mettre en ligne. Ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises, mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est notre relation spirituelle, notre vie spirituelle avec Jésus-Christ. Et notre désir, c'est d'essayer d'encourager. Alors, c'est d'encourager ça parmi nous. C'est un vaste programme. Nous devons prier pour cela. Nous devons nous encourager les uns les autres à vivre de cette façon. Mais ces choses spirituelles, cette communauté dans l'esprit qui se manifeste par une ouverture aux autres, par un accueil de l'autre, l'aide les uns pour les autres, et puis pour des activités plus spirituelles, les réunions de prière, les études bibliques, la participation au culte, votre vie personnelle avec Christ. Est-ce que vous essayez? Est-ce que vous lisez votre Bible tous les jours? Je ne vous demande pas de la lire en un an, je vous demande simplement de lire quelques versets chaque jour. En général, quand on commence, on ne se contente pas d'un seul verset, mais cette première chose à faire, pensez aux autres, vous aimez, manifestez votre amour par des actes pratiques. Je vais laisser maintenant la parole à Tonio qui va nous suggérer quelques domaines où on peut s'engager pratiquement. Et puis on reviendra pour prendre la Sainte Cène ensemble. Amen. Amen.
Très bien. Pierre m'a demandé de vous présenter un peu ce qui se passe à l'Église, les différentes choses que des gens font pour servir les autres. Donc pour essayer qu'on ait une vision peut-être un peu plus complète de tout ce qui se passe à l'Église, pour prier pour ces choses, peut-être pour s'engager à certains niveaux avec ces choses. Moi, j'avais envie de rappeler brièvement aussi pourquoi on fait certaines de ces choses. Quand on lit la Bible, il n'y a pas de manuel de l'école du dimanche et de comment faire la projection et de brancher la sono, etc. Et comme on disait, souvent on regarde les choses et on a l'impression que c'est des choses, bon, ça c'est du matériel, c'est du bassement, voilà. Mais dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, quand il y a l'Église qui commence, on voit que l'Église commence, et c'est le verset qu'on cite en général quand on parle de l'Église et de ce qu'on fait à l'Église. En tout cas, pour nous ici à l'Église, c'est Actes 2:42, où il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et on prend ça et on se dit « c'est la base ». Mais si vous continuez à lire dans le livre des Actes, vous arrivez au chapitre 6 et les apôtres, ils disent il y a un problème pratique. On a des gens dans l'église et il y a un problème et c'est une question des veuves à qui il n'y a pas de service, etc. Vous pouvez aller lire l'histoire. Et donc ils prennent des décisions pratiques. Et ces décisions pratiques, elles sont importantes parce qu'elles permettent le spirituel, elles permettent l'autre pendant. Et ces choses, on voit notamment qu'Étienne, dont on connaît l'histoire ensuite, qui est un homme puissamment utilisé par Dieu et qui est le premier martyr de l'Église, c'est lui un des diacres qui est choisi pour servir et pour s'occuper de ce problème très pratique et basique, pour servir un peu dans l'ombre des apôtres. En gros, on a dit, dans Actes, ils disent, les apôtres, ils ont un travail plus important, donc il faut que les autres gens s'occupent du travail moins important pour eux, en quelque sorte. C'est pas de l'importance, mais c'est juste les apôtres avaient leur travail, et il y avait d'autres tâches, et il fallait que d'autres gens s'en occupent. Et cet Étienne, on voit que son témoignage dans la Bible, c'est pas qu'il a dit non, moi je veux être aussi avec les apôtres, moi je suis un homme. Il est dit qu'il était rempli de l'Esprit. C'est pas quelqu'un qui était moins important que les apôtres, c'est pas quelqu'un qui avait de l'ambition personnelle de dire je veux être au niveau des apôtres et faire les trucs importants. Et il a été utilisé par Dieu et Dieu lui a accordé quelque chose de difficile mais aussi de très spécial. Je pense que ces deux choses nous permettent aussi de voir que nous, ici, on a une communauté, on vit ensemble dans l'Église. Il y a des problèmes pratiques auxquels on a besoin d'une réponse pratique pour que tout l'ensemble puisse fonctionner. Et c'est pour ça que dans cette liste, vous allez voir, il y a des choses qui sont d'ordre bassement matériel, mais elles ont leur importance. Parmi les choses qui sont faites par différentes personnes, il y a l'enseignement le dimanche matin, aux études bibliques ou à d'autres moments dans les groupes de maison. Il y a la louange, les gens qui font la musique, qui aident avec la projection, qui aident avec la sono, derrière, Craig, d'autres. Il y a les gens qui s'occupent de la traduction en anglais. Parfois, on a eu de la traduction en d'autres langues. Ça peut être le dimanche matin, on a aussi d'autres travaux de traduction pour avoir des chants, pour avoir certains livres, etc. Il y a un service au niveau de l'hospitalité à l'église, avec l'accueil, avec le livre d'or, qui est important aussi. On a la collation après le culte. Des fois, quand après le culte, on traîne derrière et qu'il y a des choses à manger, c'est parce que quelqu'un s'est donné la peine de le préparer et de l'amener. On essaie de faire un effort pour fêter les anniversaires, pour souhaiter les anniversaires. Et là aussi, c'est quelqu'un qui s'en occupe. On a l'école du dimanche qui se passe pendant l'église en haut. On a le groupe des ados. On n'a pas en ce moment, mais on a eu les groupes de maison. Des groupes d'hommes ou des activités au niveau, avec le groupe des femmes, les études bibliques qui peuvent avoir lieu en semaine. Ensuite, il y a les réunions de prière qui sont organisées le mardi matin, le mercredi soir. Il y a les requêtes de prière qui sont récupérées, qui sont ensuite envoyées aux gens. On a de la prière. Il y en a certains qui arrivent un petit peu plus tôt, on prie avant le culte, on prie après le culte entre nous parfois, il y a des gens qui prient les uns pour les autres. On a fait par le passé des jours de prière ensemble en tant qu'église. Il y a de l'évangélisation qui se passe avec un stand à la fac, avec des gens qui vont dans la rue. Christine et Mitch Sorensen qui sont dans la rue très souvent et d'autres activités par rapport à ça. Sur du très pratique, on a l'administration et les finances qui sont un travail important au niveau de l'église et au niveau de l'association culturelle. Ça demande pas mal de temps aux gens qui s'en occupent. Il y a la maintenance des locaux. Le nettoyage, le ménage, l'entretien, le bricolage, l'aménagement. C'est des choses qui demandent du travail aussi. On a au niveau, peut-être on pourrait dire, média, communication, le bulletin qui vous permet de savoir ce qui se passe. Si vous recevez des courriels ou des emails de nouvelles par rapport à l'église, il y a des gens là aussi qui le font. Le site web, des photos que vous pouvez voir d'activités de l'église. Il y a les enregistrements des enseignements. Il y a le côté technique, les branchements, la sono, les lumières, les choses qui ont besoin d'être faites. On a le café Colombe le dimanche après l'église et en semaine. Ensuite, on a des événements spéciaux. On a des retraites, des conférences de femmes. On a eu des conférences de pasteurs. On a eu la friperie récemment pour les femmes de l'église. On a parfois des randonnées ou des pique-niques qui sont organisées aussi. Et puis on a un dépôt-vente pour la librairie de la Bible pour qu'on puisse avoir un accès direct à des choses ici. Il y avait une antenne portes ouvertes où on mettait des nouvelles par rapport à des choses qui se passent dans les églises dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Et ça, ce sont toutes les choses auxquelles j'ai réussi à penser, mais il y a peut-être encore d'autres choses. Et vous voyez qu'il y a des choses qui sont très, très simples et très pratiques, et on a besoin de toutes ces choses. Et vous voyez que quand je fais la liste et quand on regarde combien on est là ce dimanche, on se dit que si on se donnait chacun une des choses, on serait peut-être pas assez. Et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de besoins, et il y a d'autres besoins aussi. On a d'autres choses qu'on pourrait faire si on était plus nombreux, plus à servir, plus à faire ces choses. Donc, par rapport à cette liste, l'idée, comme je vous disais au début, c'était qu'on s'en rappelle, qu'on soit conscient de ce qui se passe, qu'on prie pour ces différentes choses, pour les personnes qui s'en occupent, qu'on se demande, tiens, finalement, en fait, je vois tout ce qui se passe et moi, en fait, je suis absolument pas impliqué. Dieu veut qu'on se serve les uns les autres, qu'on s'aime les uns les autres. Quand la Bible, quand Dieu parle de l'amour, il y a l'idée de quelque chose de pratique. Quand on dit qu'on aime Dieu, Dieu il dit d'accord, ça veut dire que vous obéissez à ma parole. Et c'est souvent des œuvres. On sait que Jacques dit, vous avez la foi, où sont vos œuvres? Où sont les choses concrètes, les choses pratiques qui accompagnent cette foi? Et toutes ces choses sont des moyens de montrer votre amour pour Dieu et votre amour les uns pour les autres. Et en présentant ces choses, Pierre parlait du fait qu'on peut être une association. On peut dans la chair, par nos propres forces, faire toutes ces choses et plus. On peut faire ces choses sans Dieu. Et pour nous, ça doit être une mise en garde. Pour moi et pour vous, quand vous servez à l'Église, ça doit être une mise en garde que ces choses peuvent être faites sans Dieu. Et la Bible nous dit que c'est dans 1 Corinthiens 3 que à la fin, Dieu, on sera sauvé si on croit en Jésus, mais qu'il va quand même regarder nos œuvres et que pour certains, il est dit, ils vont arriver au ciel, mais de justesse, il ne va pas rester grand chose. Il est dit que nos œuvres sont testées par le feu et que pour certains, il ne restera pas grand chose parce que ça aura été fait par nos propres efforts et pas comme le Seigneur le veut. Et moi, j'ai été très repris aussi par rapport à ce que Pierre disait, l'idée de vision spirituelle. On a tellement de mal à se rappeler ces choses et cette vérité, et la réalité, c'est que les choses qui plaisent à Dieu, c'est les choses qu'on ne voit pas, les réalités invisibles dans notre service. On sait que la foi, c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas, et que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, et qu'il y a cette réalité, et ces choses ont toutes besoin d'avoir lieu, je pense, dans notre assemblée. Mais je me parle à moi-même, je m'encourage à prier et à remettre chaque chose au Seigneur, me rappeler que ces choses, il y a un élément spirituel derrière quand je nettoie quelque chose au café, si je fais la vaisselle après l'église, si je parle à quelqu'un, tout ce que je fais, il doit avoir une dimension spirituelle à ces choses, et c'est à ce moment-là que je peux plaire à Dieu par la force de son esprit qui agit au travers de nous lorsqu'on obéit. Et j'avais limite envie de vous dire, parce qu'en faisant cette liste, je peux vous dire, bon, ben voilà, prenez un truc et servez quelque part, inscrivez-vous et on fait la liste. Mais ça peut être de la frustration ou de la peur qui nous pousse à faire ces choses, et on veut que ce soit l'amour qui nous pousse à faire ce service pour le Seigneur. Et je m'encourage moi et je vous encourage à prier pour que Dieu nous mette les choses à cœur et pour que ces choses soient faites avec le bon regard, avec le regard spirituel. Et à la limite, si j'ai limite envie de vous dire, si vous n'êtes pas dans cette optique-là, si vous ne voyez pas ce côté spirituel, si vous n'arrivez pas à accorder cette importance à certaines choses, à la limite, peut-être qu'il vaut mieux pour vous que vous arrêtiez de servir un moment et que vous fassiez le point un peu avec Dieu. Servir pour servir et pour faire les choses dans la chair, c'est de la perte de temps pour moi. Quand je le fais, c'est une perte de mon temps. Et on a besoin de voir les choses avec la bonne perspective et de faire ces choses avec la bonne perspective pour Dieu. Comment je pourrais dire ça? Limite envie pour certains d'entre vous avec lesquels j'ai eu à travailler, j'ai limite envie de vous demander pardon dans le sens où dans beaucoup de cas, j'ai agi avec, je dirais, de la frustration ou de la peur ou peut-être même de la colère parce que c'était fait dans la chair et c'est pas bon. Et je dois m'en repentir devant Dieu et devant vous pour certains avec lesquels j'ai pu travailler. Je pense peut-être notamment le dimanche matin, je peux vous le confier, il y a des fois où je suis frustré avec le café ou avec la vaisselle, où je me dis pourquoi il n'y a pas des gens qui viennent aider avec la vaisselle. C'est ma chair et c'est Satan qui parle. Et je vous demande pardon et on doit ensemble prier pour que Dieu change nos cœurs et nous donne cet amour, cette motivation qui est bonne à le servir et à s'aimer les uns les autres dans l'esprit et de la bonne manière. Sinon, on perd notre temps et ça en vaut pas la peine. Voilà.